Un tango, une danse, un baiser.
Du bouddha, bébé, bébé. Par les temps qui courent.
Ça y est, je suis 21.
Marie Richeux.
Et c'est que le monde dans cet moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Parfois, quand on me demande qui je suis, je réponds « je suis les traces de ceux qui me semblent importants ». Rien de plus vrai que cela. Ce que l'on connaît, qu'on a connu, et aussi les œuvres ou les lieux qu'on a pu voir. Ce sont vos mots, Ramucho Mata, extraits de votre livre « L'usage du temps ». Et quelques 5 années plus tard, pour débuter votre nouveau livre « Les chants du chant », vous écrivez cet adage « c'est par osage et en oisant que l'on trouve les plus beaux chemins, mais ceci ne serait rien sans les rencontres ». Alors bonsoir, Ramucho Mata.
Bonsoir à vous.
Depuis toujours, votre travail se partage entre plusieurs médiums artistiques. Et ce soir, on vous reçoit à l'occasion de la réédition de Homeboy. C'est un disque de Don Cherry, sorti en 1985, parce que vous n'y êtes pas exactement pour rien. Et puis on vous reçoit aussi pour évoquer l'exposition de vos œuvres à la galerie Écriture, c'est à Montluçon, et on peut les voir jusqu'au 15 septembre prochain. Et enfin, pour le livre qui accompagne cette exposition, et qui s'appelle « Les chants du chant », je viens d'en citer quelques extraits. Donc on vous reçoit pour parler de vous, et du coup pour parler de tous les autres, si vous êtes les traces laissées par les autres.
Sans les autres, je ne serais pas là.
Donc on reçoit un peu tout le monde ce soir.
Ils sont tous là.
Bienvenue à tous alors.
En rassemblant les bouts coupés, j'ai vu qu'il y avait un texte nouveau qui surgissait de ce tas de matériaux que j'avais devant moi. Et puisqu'on discutait depuis un moment déjà, depuis l'organisation de ce livre qui est le Festin nu, qui n'avait ni commencement ni fin, ni même une suite dans le sens accepté du mot, on parlait des écrits comme si c'était des matériaux de peintre, de la couleur, les mots ont une couleur qui peut être à la fois associée aux mots ou désassociée. Les mots ont une présence, une réalité qu'on voudrait tactile. Et en lui proposant ces textes assemblés par le hasard, on se disait qu'on était beaucoup plus près à toucher les mots qu'on n'avait jamais été auparavant. À ce moment-là, je fréquentais Zara, que je connaissais, je l'ai connu depuis les années 30, et en lui parlant des activités du groupe de gens dont je m'étais entouré à ce moment-là, des écrivains américains qui vivaient à Paris dans les années 60, il nous a demandé « Pourquoi est-ce qu'on fait ce que nous avons déjà fait il y a 40 ans ?» Et je lui ai répondu « Parce que vous n'avez pas fait assez bien, vous n'êtes pas allé assez loin. » Ce qui l'avait beaucoup troublé, je dois dire, à ce moment-là. J'ai dit que pour vous, c'était des jeux d'esprit. Et pour nous, ce sont des jeux de vérité, mais pas dans le sens « Comment trouver le mot exact ?» C'était pour reprendre ce que je venais de dire là tout à l'heure, c'était l'idée de trouver la matière même et pas du tout l'esprit qui se dégageait.
Alors on a dit qu'ils étaient tous là, on fait entrer le premier, si vous voulez bien, Ramucho Mata, vous nous le présentez ?
Alors il s'agit de Brian Gysin. Brian Gysin était un personnage assez important de la culture underground à partir des années 50, parce que il a décidé d'être entre plusieurs choses, entre la musique, la poésie, la littérature. Et surtout, il a décidé de privilégier, beaucoup d'artistes privilégient le verbe voir. Et lui, il était dans le verbe vivre. C'est-à-dire que pour lui, ce qui importait le plus, c'était vivre. Et moi, je l'ai connu tout à fait par hasard. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je raconte ?
Bah, oh, j'ai l'impression. En tout cas, on ne se dit pas qu'il entre ici avec cette archive de 1977 complètement par hasard. Il pourrait. Lui qui parle beaucoup de hasard. Mais en fait, il rentre ici parce qu'il a quelque chose à voir avec ce que vous faites.
Il a quelque chose à voir, ou j'ai quelque chose à voir, ou nous avons quelque chose en commun. C'est peut-être la préoccupation, c'est-à-dire que ce qui nous préoccupe, avant d'être occupé, on cherche à produire des miracles. Et pour ça, il faut avoir les clés du temps. Et lui avait découvert les clés du temps en allant vivre dans le désert, dans le Sahara. Il avait passé un certain temps là-bas, il avait été initié par des peuples, dont je ne me souviens plus le nom, et il me racontait ces histoires lorsque j'avais 15 ans. Parce que lorsque j'avais 15 ans, j'avais du mal avec la discipline. J'avais du mal avec l'école, j'avais du mal avec beaucoup de choses. Je sentais que cette époque n'était pas vraiment adaptée. Et puis donc j'ai fait plein d'écoles très différentes, et un jour le directeur me convoque dans son bureau. « Monsieur Mata, asseyez-vous là. » La première chose qui m'a étonné, c'est qu'il a laissé la porte ouverte. C'est rare les directeurs qui laissent la porte ouverte. Je ne sais pas ici s'il laisse la porte ouverte ou pas, mais je ne sais pas.
Ça dépend des rendez-vous.
Et il m'a dit, voilà, il m'a semblé avoir saisi votre profil, vous préférez la rue à l'école. Vous avez raison. Néanmoins, mon expérience me dit qu'il y a certaines choses qui pourraient vous être utiles. Donc je vous propose un deal. Vous venez au cours de poésie et de philosophie. Et vous allez faire les courses pour un vieil ami à moi, et je ne dirai pas à vos parents.
Que vous n'êtes pas à l'école.
Si vous travaillez bien. Donc il fallait que je travaille bien. Et donc je me suis retrouvé à 15 ans chez ce monsieur qui s'appelait Brian Gaisin, qui était très chic, qui m'a accueilli dans une gelaba. Et tous les matins, au lieu d'aller à l'école, j'allais chez lui, je l'aidais pour son petit déjeuner, je l'installais à sa table de travail, où nous discutions pendant une petite heure avant qu'il commence avec la machine à écrire, et puis je partais faire les courses. Et puis quand je revenais, j'entendais du bas de l'immeuble la machine à écrire, je me rapprochais. Et puis on discutait en déjeunant, et puis j'allais à l'école ou j'allais ailleurs. Et c'était chouette parce qu'il habitait rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, en face du centre Pompidou. Et à la même époque, en 1975, il y avait le Trou des Halles, qui était un endroit pas mal. Ou s'occuper.
Et s'occuper après avoir été préoccupé.
Et lui, il avait cette chose importante, donc il m'a montré la rigueur, qui n'est pas la même chose que la discipline, ça c'est important. Et puis l'importance de la rencontre, parce que tous les après-midi, je retournais chez lui vers 5 heures, et il faisait salon. Et tout le monde passait, tout le monde, ça voulait dire toute la scène underground qui passait par Paris, et puis ses amis. Ces gens qui comptaient pour lui, non pas parce qu'ils faisaient des choses ensemble, mais parce qu'ils étaient dans une belle écoute réciproque. Ce qui fait qu'à 15 ans, mes amis avaient plutôt 60 ou 70. Ou alors, c'était des gens que je découvrais plus tard, parce qu'en les voyant assis là, à la table, comme on est là, j'avais pas capté que Jimmy, c'était Iggy Pop, ou que David, c'était David Bowie, parce que ces gens-là, quand ils sont là, ben, on les voit pas comme ils sont là. On les voit autrement. Et donc, j'ai eu une éducation, en plus du reste, par Brian Gaisin, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé, et qui m'aide encore aujourd'hui.
Ce qu'on entend dans cette archive, et qui me semble assez intéressant pour tout ce qu'on va essayer de dérouler pendant cette heure, c'est la manière dont il dit que l'écrit, c'est de la matière. Les mots ont une couleur, ils ont une texture, et il se propose, après Tristan Tzara et Dada, d'aller plus loin, en ne cherchant pas des choses de l'esprit, mais en cherchant des choses de la matière. Et il me semble, Ramucho Mata, que dans ce que vous faites, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ah, je ne sais pas ce que je fais, moi. Moi, j'essaye de faire des choses, mais j'ai l'impression que ce qu'il entend par ça, c'est que Tzara s'intéressait au sens des mots, et lui était intéressé au rythme des phrases. C'est-à-dire que peut-être que par le rythme des phrases, arrive un autre message parallèle à l'autre. Bien sûr que le sens des mots est fascinant, est extrêmement puissant, mais peut-être que le rythme apporte quelque chose de nécessaire qui ne passe pas par la rationalité. Donc peut-être que c'est une matière, la même matière qui se trouve peut-être entre vous et moi. Elle est peut-être plus importante que la matière elle-même.
Il y a un dessin avec des mots qui dit un petit peu cela, est-ce que je vais réussir à le retrouver ? Qui parle de la scansion des phrases et de la manière dont le rythme nous amène, non pas sur le sens, mais un autre sens possible. Il est là.
Il est là. Ah oui, l'espèce de puzzle.
Si on accepte l'idée que le rythme des phrases en dit plus long que le sens des mots, alors la permutation offre, comme le cut-up, un accès, je m'arrête parce que c'est des petites cases, hein, un accès au son, à la potentialité et la véritable essence de l'information, à savoir le corps.
Exactement. Donc vous voyez qu'en le lisant de cette façon-là, vous nous avez offert un message qui passe par autre chose que la rationalité.
Et qui passe par quoi alors? Qui passe par la dernière petite case, le corps?
Ben, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, c'est aussi une sensation, que le corps, c'est cette histoire de temple dont parlent peut-être toutes les religions. Et que si on arrive à trouver un accord avec notre corps, alors il se passe des choses dans nos vies qui sont plus intéressantes. Et il parle de ça, Gaizin. Mais Gaizin, il n'est pas un génie qui descend des astres. Il est lui aussi le fruit de rencontres et de savoirs très différents. Des savoirs à la fois de gens cultivés, mais aussi de gens qui ont vécu des choses, donc qui sont des choses. Il avait des amis très curieux. Il en avait un qui m'étonnait toujours. Il avait une carte de visite sur laquelle il y avait marqué « Menteur, tricheur, voleur
». On est prévenu.
Oui, et c'était très sympathique. C'était un type qui avait une espèce d'intelligence de la rue dingue. Et il était côtoyé sans cesse. Sans cesse, il cherchait à côtoyer ces moments-là et ces gens-là. Et peut-être qu'il y a une filiation dans l'histoire, il faudrait se renseigner après des gens qui font des études comme ça, d'où ça vient, quoi. Moi, j'ai réussi à retracer jusqu'à Raymond Lulle, donc j'arrive à monter jusqu'au XIIe siècle, mais ce serait intéressant de voir avant. Est-ce qu'il existe des choses qui nous aident à rendre la vie plus chanceuse? Je sais pas.
Moi non plus, alors là. Vous parlez de transmission plus ou moins consciente entre Brian Gizin et vous, ça prenait quelle forme, en dehors de ces salons, avec les David dont vous ne saviez pas qu'ils étaient Bowie, et les Jimmy dont vous ne saviez pas qu'ils étaient Iggy Pop?
Bah, ça passe par la forme de l'interrogation sur ce qu'on fait. Quand il me lisait une page qu'il venait d'écrire, il se passe une espèce d'érotisme, c'est-à-dire de densité qui ne se reproduira plus, qui est que là, à cet instant-là. Et j'ai l'impression que ça passe par quelque chose qui est infini. Mais je crois que la question du travail, c'est un des liens qui permet de servir de véhicule à ce changement du monde.
Le travail, c'est-à-dire ce que vous évoquiez tout à l'heure, de la rigueur qui n'est pas la discipline?
Le travail, c'est cette... Je sais pas, c'est très difficile. J'essaie de faire un film depuis 6 ans sur la différence entre métier et travail.
Intéressant.
Ben oui, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui répondent à la même chose. Et donc, ce que j'appelle le travail, c'est le moment où on se met en contact avec une partie de nous-mêmes qu'on ne connaît pas encore. Je pense que ça vous arrive. Quand vous écrivez, quand vous rencontrez quelqu'un, il se passe quelque chose qui... Je crois que ça passe par là. C'est infiniment petit. J'ai appris ça aussi parce que j'ai retrouvé, il n'y a pas longtemps, mon directeur d'école.
Le fameux, celui qui avait laissé la porte ouverte, voilà. Et qui avait dit « Ok, je dis rien, mais par contre, la philo... »
Voilà, la philo et la poésie.
Et la poésie.
Et faire les courses pour ce vieil ami malade. Donc un jour, je reçois un message sur Facebook et qui me dit « Bonjour, mon grand-père m'a beaucoup parlé de vous. » Alors là, je me dis « Ah, si c'est le grand-père, c'est que vraiment, je suis mal barré. » Enfin bref.
C'est-à-dire quoi? Vous avez vieilli, quoi?
En gros, j'ai vraiment pris un coup de vieux en quelques secondes. Et je lui dis « Qui est votre grand-père ?» Il me donne le nom, Maurice Benhamou. Et je lui dis « Ah, mais il est encore de ce monde, oui, je vais le rencontrer. » Et je lui demande « Mais comment t'as fait pour sentir ce qui allait me sauver la vie ?» Parce que j'étais vraiment mal barré. Parce que moi, à l'époque, j'étais intéressé que par la moto et le karaté. J'ai rien contre la moto et le karaté, mais quand on n'a que ça, on risque de devenir un tout petit peu limité. Je vais me faire des amis, je sens encore. Et il m'a dit, écoute, c'est très simple, j'ai eu mon agrégation en 1945 et j'ai accepté la mission que personne ne voulait à l'éducation nationale. C'est-à-dire, j'ai accepté de rescolariser les enfants qui sortaient des camps. Et donc là, j'ai dû ouvrir mes antennes, j'ai dû essayer de capter pour chacun d'eux quelle allait être la toute petite bribe qui allait permettre à la graine de s'enraciner et de se développer pour devenir un arbre et accomplir un destin étonnant.
Donc c'est avec cet œil affûté, notamment par l'histoire.
Cette affûtation.
Affûtation de l'œil.
Oui, cette affûtation de sentir qu'il y a chez quelqu'un un truc mais il faut saisir ce petit machin. Moi, je travaille beaucoup avec des enfants, je travaille beaucoup avec des gens qui passent par des périodes psychiques fragiles. Et je crois qu'il y a un espèce de territoire commun qui est celui de la créativité, qui n'est pas là pour produire une œuvre, mais qui est là pour produire une hypothèse sur ce qu'on est et sur ce qu'on peut être.
Ce que vous disiez tout à l'heure du travail qui nous met soudainement en contact avec une partie de nous qui nous était jusqu'alors inconnue.
Voilà, et ça c'est quand même une des bonnes nouvelles qu'on peut avoir chaque jour.
Vous dites, Ramucho Mata, c'est très difficile pour moi de dire ce que je fais. Est-ce que c'est important? Et est-ce que parfois vous réussissez à répondre à cette question-là?
Je ne sais pas si c'est important de savoir. J'essaie de faire de mon mieux. Mais je sais pas, franchement, je sais pas. Je fais des choses sur des territoires très différents. J'essaie de trouver des solutions à chaque question qui m'est posée. La question de se lever le matin, c'est déjà une bonne question.
Et elle est vaste. Hein.
Elle est vaste. La question de rencontrer des amis, d'essayer de faire quelque chose avec ses doigts, d'inventer des chansons, de donner des formes à des idées. Mais je sais pas, c'est important de répondre à cette... Je sais pas, c'est important de savoir ce qu'on fait. Vous savez ce que vous faites?
Pas toujours.
Vous êtes une révélateuse.
Révélateuse, non? Affutation révélateuse.
Non?
Non, je sais pas toujours ce que je fais, je sais pas si c'est très important.
Que vous le sachiez?
Oui.
Mais ce que vous faites est important.
J'espère, parfois.
Oui, je pense, parce que je pense qu'on voit vraiment mieux avec les oreilles qu'avec les yeux.
Moi aussi, voilà. Souvent.
Ben, on est d'accord.
C'est un bon point de départ. Est-ce que dans Les Chants du Chant, c'est le livre qui accompagne l'exposition qu'on peut voir jusqu'au 15 septembre à Montluçon, c'était aussi un lieu pour vous où il était possible de répondre à des questions sur du papier, avec des mots, de la peinture, du dessin, de l'encre?
On a rarement l'occasion de faire vraiment ce qu'on veut. Et en fait, j'ai connu Jean-Marc Vincent, le propriétaire de
la galerie Écriture,
à Montluçon, avec Gaizin, c'est-à-dire qu'il venait chez Gaizin à cette époque-là. Brian Gaizin, il faut répéter le nom, Brian Gaizin. Vous voyez, on rentre dans un mantra. Et puis il m'a demandé, il y a quelque temps, si je voulais faire un truc chez lui, et j'ai dit oui, magnifique. Il m'a parlé d'un truc dans sa ville, un musée qui s'appelle le MUPOP, le Musée des Musiques Populaires. Et j'ai dit, ah écoute, moi ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une mise en abîme de d'où viennent les chansons. Parce que c'est un truc très très bizarre, une chanson. Il y a des chansons qui peuvent se faire en le temps de la chanter, c'est-à-dire que ça vient en 3 minutes, le temps de la chanson, et il y a des chansons que je n'arrive toujours pas à terminer après 10 ans. Mais c'est une matière, la chanson, c'est un espace-temps, c'est un lieu qui pour moi est absolument essentiel. Donc avoir l'occasion de pouvoir donner à voir par les yeux, par le dessin, parce qu'il y a des choses où les mots s'arrêtent, en tout cas pour moi, et il y a des choses où le dessin s'arrête. Et cette fois, j'ai réussi à conjuguer ou à convoquer tout ça pour faire ce livre qui m'a beaucoup plu, ce qui m'étonne, parce qu'en général, quand je finis quelque chose, j'ai toujours du mal à le regarder avant 10 ans. Et là, je me dis, tiens, c'est un moi que je ne connaissais pas. Et puis, ça montre un peu comment ça se construit, tout ça. L'important, il y a des photos qui sont mêlées au dessin aussi, parce qu'il y a des gens qui sont super importants, dont on n'a pas l'habitude de parler.
Ça prend la forme d'un carnet, enfin de pages de carnet. Je dis ça juste parce qu'on voit des petits carreaux et que ça ressemble à du papier. Est-ce que ça nous renseigne sur l'endroit où ces choses sont faites? Est-ce que vous avez toujours un carnet comme ça? Ou est-ce que c'est pour de faux?
J'ai tendance à écrire comme ça, en fait. C'est les partitions, quand j'écris une chanson, il y a toujours un petit dessin qui me permet de retrouver le ton. Parce que j'aime pas tellement écrire la musique, c'est trop. Après, on a un devoir de trop fidèle par rapport à l'original. Donc, j'écris sur des petits carnets. Et là, je venais de trouver un nouvel appartement. Et au fond d'un placard de cet appartement, il y avait une pile de feuilles de papier qui datait de 1960. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant.
Comment vous le saviez que ça datait de 1960?
Parce qu'il y avait un tampon. Avec, c'était vraiment, il y avait plusieurs rames, des ramettes, je ne sais pas comment on appelle ça.
Des rames de papier?
Des blocs qui avaient été abandonnés au fond de ce placard. Et au moment où il m'a téléphoné, j'avais ces feuilles sous les yeux. Je me suis dit, bah tiens, voilà.
Galeriste.
Le galeriste, ouais. Et j'aime bien utiliser le hasard aussi.
Vous dites que ça vous donne l'occasion de parler de ce que c'est qu'une chanson, parce que c'est très important. Et l'une des autres raisons pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est pour parler de la réédition d'un disque qui est paru en 1985 de Don Cherry, où il est question de chansons. où il a été très évident que Don Cherry allait faire des chansons.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que j'étais allé avec lui, on s'est rencontrés dans la rue. J'avais acheté un mélodica. Vous savez ce que c'est qu'un mélodica ?
C'est un piano dans lequel on souffle.
C'est un petit piano dans lequel on souffle. Le mien est bleu turquoise, je l'ai encore. Et je venais de me l'acheter parce que ça m'intriguait. J'avais entendu des musiciens de reggae faire de la musique avec ça, donc j'avais ça à la main. Et je vois à l'angle de la rue...
Paris, toujours.
Boulevard Raspail, boulevard Montparnasse, à l'angle, je vois Don Cherry avec un chapeau, une petite plume. Je savais qui c'était parce que je viens d'une famille... Ma mère aimait beaucoup le jazz. On pourrait parler de ma mère, enfin, faire une belle émission sur ma mère parce qu'elle a fait des choses très étonnantes. Elle était à Cornell à l'université, elle avait fait une radio de jazz qui s'appelait Red, en hommage au polo qu'avaient les joueurs de football de l'école. Et comme ça s'appelait Red, elle avait été accusée de McCarthyisme. Donc elle avait été chassée des États-Unis. Et pourquoi je parle d'elle ?
Pour le jazz. Oui. Vous saviez très bien qui était Don Cherry.
Je savais très bien qui était Don Cherry parce qu'elle avait été road manager de Duke Ellington. Donc il y avait souvent des jazzmen à la maison. J'ai eu Monk à la maison, j'ai eu des gens comme ça, mais j'avais jamais eu Don Cherry. Donc je vois Don Cherry et il a un mélodica à la main. Et il me fait signe. Et je le salue parce qu'il me fait signe. Et il vient vers moi. Je vais pas m'éloigner. Donc il vient vers moi, je vais vers lui et il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?»
Du mélodica ?
Non, j'avais rendez-vous avec Hélène, mais Hélène, tout d'un coup, n'existait plus. Je dis rien. Et il me dit, viens, est-ce que tu veux venir dans ma chambre d'hôtel ? On va faire un peu de musique. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et pendant toute la nuit, très patiemment, il a essayé de m'expliquer la technique harmolodique d'Ornette Coleman. J'ai rien compris, j'ai toujours rien compris. D'ailleurs, je comprends toujours très peu de choses aux choses que je fais. J'aime bien garder du mystère dans tout ça. Et on est restés amis tout le temps. Et puis, quelques temps après, on a enregistré un morceau avec Don Cherry, qui est sur ce disque aussi, avec Brian Gaisin, qui est un morceau qui s'appelle Kick, qui est une permutation. Un jour, on est allé voir Miles Davis, on est allé backstage. Et Miles Davis nous avait rentré dans sa loge, juste Don et moi. Don avait sa trompette et il avait un songbook, un livre de chansons de Billie Holiday. Et tous les deux ont joué Billie Holiday à la trompette, un duo de trompette. Et puis Miles Davis, à un moment donné, pose sa trompette et dit « Ah, peut-être qu'un jour, j'arriverai à jouer aussi bien que toi », en parlant de Don. Et Don a dit « Ah, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir exprimer l'essence du jazz, c'est-à-dire le chanter. » Et là, je lui ai dit « Mais faisons un disque de chansons. »
On va l'écouter. C'est une archive de 1975. C'était quand cette rencontre avec l'harmonica ?
Le mélodica, c'était 78.
Bon, là, 3 ans en avant. Vous ne vous connaissez pas encore.
For one thing, we must understand like the melodies that Albert played.
Il faut surtout comprendre que c'est la mélodie qu'Albert jouait.
You know, it's something that's a piece of work that's absolute of what they call art.
Du travail qui est vraiment de l'art.
You have the familiarity.
On a ce sentiment de familiarité.
You know, like you've never seen this before, but you still feel.
Comme vous n'avez jamais vu ça avant, et pourtant, vous avez l'impression que vous l'avez déjà entendu. Toutes ces mélodies avaient cette qualité.
And where it was so strong, you know, that the melodies would ring, even though
you would go into improvise, même quand
you could still hear the sound of the melody ringing, you know.
Et on entendait quand même le son de la mélodie.
Also,
ça sonnait.
He's one of the first persons played melodies
qui a joué
that he loved,
des mélodies qu'il aimait,
that were dear to him,
qui lui était cher.
Now it's happening more, you know, everyone else.
Maintenant, on fait ça beaucoup.
Was something that was passed to him, I believe.
Mais ces mélodies,
because I do not feel that a musician, I think he's only a filter of something.
Je ne crois pas que c'est le musicien lui-même qui crée la musique. Il est seulement un filtre.
And these melodies are a part of this.
Ces mélodies sont
preservation of quality.
Sont une partie de sa qualité, enfin de sa capacité à préserver.
This tour that we had made was
cette pureté formelle.
It was incredible. All that naturalness was in this man's sound.
Et tout ce côté naturel, il l'avait.
And to me, it was like the word that came back.
Et pour moi, c'était comme si le mot, le verbe était revenu. Vous savez, le verbe dans la Bible.
And in hearing this man's sound,
it was there. I had the feeling of
when I
J'avais le sentiment que, vous savez, c'était comme quand j'étais jeune, que mon père me prenait, ma sœur et moi, et on allait à l'église. C'était une église baptiste. C'était tôt le matin, on allait à l'école du dimanche. Après, il y avait des conférences, et puis on écoutait la radio le soir. Puis ils venaient nous chercher à l'école. Et le sentiment, enfin, ce que je sentais à cette... C'est dans cette église et dans cette école, c'est chacun, j'avais l'impression que tout le monde était heureux, qu'il y avait un esprit dans la pièce, un esprit commun, on parlait le même langage.
Mais
c'est tout ce sentiment d'un esprit qui est présent.
C'est Spirit du quartet Albert Taylor, dans lequel jouait Don Cherry. Et juste avant, c'était la voix de Don Cherry lui-même en 1975. Vous ne vous étiez pas encore rencontré, Ramucho Mata, mais vous reconnaissez cette voix-là.
C'est très émouvant, voire bouleversant, d'entendre tous ses amis. Parce que c'est très curieux, le temps. On nous fait croire que le temps, il y aurait un avant et il y aurait un après entrecoupé par un présent. Alors que tout ça est là, tout le temps. C'est très curieux. Et alors Albert Taylor...
Attendez, pause. En même temps, la question du présent, elle revient tout le temps. Dans tout ce que vous écrivez, dans tout ce que vous écrivez sur ce que vous écrivez, dans tout ce que vous écrivez sur ce que vous composez, y compris dans ce que vous dites des rencontres, il y a toujours la question du présent.
Parce que je pense que le présent, c'est dans le sens présent. Pas dans le sens
cadeau.
Présent. Voilà, c'est cadeau.
Pas dans le sens temporel.
Ben, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Parce qu'Albert Taylor, il parlait de cette question du Holy Ghost. Alors, Holy Ghost, c'est le fantôme béni. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Et à un moment donné, je me rappelle, j'étais en studio, justement, dans ce disque qui s'appelle Homeboy, dont le titre complet est quand même...
Sister Out.
Voilà. C'est quand même important. L'Homeboy, c'est l'espèce de mec un peu raté qui passe sa vie devant son écran. Alors que la fille, elle, c'est une femme, elle va voir dehors, elle va voir le monde, elle va voir la vie, elle va inventer les choses. C'était quand même un manifeste pour la femme, ce disque. Et il le dit bien à plusieurs moments.
D'ailleurs, on l'entendra en fin d'émission. Hein. Ouais. Treat your girl right.
Voilà. Your lady right.
Your lady right.
Et donc, cette question du présent. J'étais en studio avec eux. Ils sont tous beaucoup plus âgés que moi, en tout cas plus matures. J'essaye de gratter sur ma guitare, je n'y arrive pas. Et puis à un moment donné, tout le monde s'arrête et ils me regardent en disant « Bah alors ?» Mais je dis « Bah tu vois bien, j'y arrive pas. » Moi j'étais embarrassé, je devais avoir 20 ans. Ils avaient tous 45 ans, 50 ans.
Et c'était pas n'importe qui, on peut dire ?
Oh, bah, c'était les meilleurs. Il y avait Yannick Top, il y avait... Don Cherry, il y avait Jean-Pierre Coco, enfin c'est que des gens absolument merveilleux. Et puis à un moment donné, Don Cherry me dit, mais il y a un truc de base que tu ne comprends pas apparemment. Un peu embarrassant comme question. Parce que
surtout
moi,
devant tout le monde.
Ben, surtout devant tout le monde. Et je dis, c'est quoi ? Et il me dit, ben, tu crois que c'est toi qui joues ? Et je dis, ben oui, c'est mes doigts, moi je suis assez basique. Hein, il dit, non, toi tu es juste là pour te mettre dans un état qui te doit permettre à la musique de passer à travers toi.
C'est ce qu'il dit dans l'archive en parlant du filtre.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit on est brouillé, y compris avec soi-même, et donc on a du mal à trouver notre façon d'être, parce qu'on est saturé par beaucoup de choses, soit on arrive à ouvrir les canaux et on accepte le présent. Et ce présent, il peut être aussi tétanisant. Et j'ai fait cette expérience-là dans ma vie aussi. Mais revenons à la... Est-ce qu'il y avait une question ?
Bah non, on était de ce côté-là, du côté de Don Cherry, à la fois avec cette archive de 1975, cette rencontre qui arrive deux ou trois ans plus tard, et l'enregistrement de ce disque qui, lui, sort en 1985. Mais peut-être pour parler de musique un peu plus précisément, Ramchomata, dans ce livre, Le chant du chant, Les chants du chant, vous écrivez « La musique n'est pas que horizontale, mais aussi verticale, du sol vers le ciel ou du ciel vers le sol ?» Point d'interrogation. Juste avant, un petit peu plus tôt dans les pages, vous dites que la guitare est venue à 7 ans par quelqu'un qui voulait absolument des contreparties en échange de l'argent. Et après, c'est Don Cherry qui m'a montré le lien, la relation entre notes et corps. Et ensemble, nous sommes passés de la vie la nuit à la vie le jour.
Eh oui.
C'est pas rien. Hein.
C'est tout. C'est absolument tout. Parce que, évidemment, la saveur de 3 heures du matin, elle est bénie. Elle est incroyable. Seulement, on a tendance à croire qu'il faudrait se mettre dans un état altéré pour toucher la grâce de ces moments. Alors que ces moments-là, si on les vit après avoir dormi, on est encore nourri de nos rêves et de ce monde-là. Donc de la partie de nous-mêmes qui est peut-être tout aussi réelle que le monde éveillé. Et en fait, quand on, encore une fois, je reviens sur cette histoire de religion, je ne suis pas très croyant, etc., mais c'est quand même intéressant, parce que les religions, c'est quand même des choses qui ont concrétisé et matérialisé un peu des idées. Peut-être que se lever très tôt le matin, ça nous permet de se débarrasser de pas mal de saturation. Et c'est ce que je fais.
Parce que c'est quoi ? Plus calme ? Parce que les choses n'ont pas, les choses du monde extérieur n'ont pas encore complètement commencé ?
Ah, encore une fois, cette histoire du pourquoi. Moi, je ne sais pas le pourquoi. Moi, je sens le comment.
Alors, dites plutôt comment. C'est une vague habitude que j'ai de poser cette question. Pourquoi ? Mais je pourrais en effet un petit peu la délaisser.
Non. Mais que c'est, j'ai l'impression que les énergies ne sont pas la même. C'est-à-dire que tout d'un coup, notre esprit, quand on écrit, par exemple, un texte vers 3-4 heures du matin après avoir dormi, ça coule de je ne sais pas où. Alors que si on l'a fait après être complètement bourré et avoir pris plein de drogues, ça va être un peu moins limpide. Et Don Cherry est passé donc de cette vie de nuit à la vie de jour, aussi pour se débarrasser des questions de drogue, parce que ça aussi c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il est nécessaire et utile d'ingurgiter toutes sortes de produits, d'alcool, de tabac, de café, nous en parlions tout à l'heure, est-ce que c'est nécessaire pour être en contact avec soi-même ?
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'ai l'impression, encore une fois, c'est une impression, que si on se débarrasse de toutes ces choses, il y a un nouveau Ramuncho, une nouvelle Marie, qui se met en place. Au début, c'est un peu austère. On se dit, oh là, ça va être fatigant. Et puis, tout d'un coup, se passe quelque chose qui nous prend la main, et la main va délier des choses qui viennent de je ne sais où.
C'est comme ça que vous peignez ou que vous faites des dessins, c'est en vous laissant prendre la main et en la laissant être déliée par quelque chose ?
Mais j'ai l'impression que le corps dit des choses et que la raison en dit d'autres. Et que la raison, elle fonctionne avec cette chose qui s'appelle la rationalité. Et moi, je préfère fonctionner avec cette chose qui s'appelle la passion. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sous contrôle. J'aime bien le mystère. S'il fallait rationaliser une histoire d'amour, par exemple, je ne suis pas certain que l'histoire d'amour tiendrait la route. Alors que quand on y met des plumes et des vagues et des doutes et des non-dits, et ben il se passe du magnifique. Je ne sais pas. Peut-être.
Vous écrivez aussi que Don Cherry, c'était autre chose.
Autre chose.
Oui, je ne sais pas, vous écrivez ça à la page suivante. Entre guillemets. C'était aussi cette autre chose.
Ah, ça doit avoir avec le dessin. Il faut regarder le dessin, parce que cette autre chose, il doit découler du dessin.
Alors, je vous laisse
parce
regarder.
Parce qu'en fait, il y a...
Je vous donne le livre.
Il y a plein de choses. Vous voyez, on a la ville dans le creux de la main.
C'est trop beau, ça. C'était comme avoir la ville dans le creux de la main.
Mais c'est ça. En fait, il y a ce terme anglais dont je n'ai jamais trouvé la traduction française, d'être streetwise. L'intelligence de la rue. De capter l'énergie de quelqu'un, de capter... Moi, je ne sais pas pourquoi, même l'autre jour, j'étais tranquille, Et puis tout d'un coup, il y a un CRS qui est là, je lui dis bonjour, on commence à parler. Et puis il me dit qu'il est d'origine kabyle et qu'en fait la Kabylie, ça devient d'avant les monothéismes. Et puis tout d'un coup, il s'arrête et me dit, mais pourquoi je vous raconte tout ça, j'ai un devoir de réserve, vous êtes curé ou quoi? Et je me dis, est-ce que je suis curé? Suis-je curé? Mais peut-être qu'il y a un côté de moi qui est curé. Chaque fois que je suis quelque part, les gens me parlent. Et donc, Don Cherry, c'est aussi cette autre chose. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à la caricature de ce que pourrait être un musicien de jazz, c'est tout d'un coup être une personne qui s'adresse à tout le monde tout le temps. Je me rappelle avec lui, lorsque nous vivions à New York, on voulait aller au restaurant, on allait jouer dans le métro 10 minutes, on gagnait $100 pour aller au restaurant, et puis on discutait avec le serveur nous emmenait chez lui, parce qu'il avait un disque, il aurait bien savoir qui jouait de la trompette, c'était un groupe africain de 1952. Enfin, tout ça, tous ces liens-là, Don Cherry, c'était cette autre chose-là aussi. C'est-à-dire de laisser ce oisan se faire. Pour errer d'une façon constructive.
Voilà. Tout à l'heure, vous disiez, Ramon Chomata, il faut arrêter de croire que ce qui s'est passé avec Don Cherry à New York ou à Paris, c'était avant maintenant. Les choses, elles ne sont pas aussi simples que ça. En fait, elles sont aussi tout à fait maintenant. Cependant, il n'est plus physiquement là. Ça se passe encore dans les villes que vous connaissez aujourd'hui, ces autres choses?
Tout le temps.
Bon, bah super.
Ouais, mais vraiment tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a un « là » qui est ici. Il y a une écoute du monde qui nous permet de nous accorder et de nous entendre.
Bonne nouvelle.
Par les temps qui courent, Marie Richeux.
Qui marche. Enfin, il dit qu'il y en a qui marchent, en tout cas.
I walk. Je marche. Et c'est vrai que cette question de marcher, moi, je marche. Vous me dites, on va faire ça, je marche. Et puis, je marche. J'aime marcher. Et pour ça, je dois dire que Paris est une ville vraiment chouette. Parce qu'on peut marcher sans but, et puis on croise quelqu'un, et puis on croise rien. Et la ville est avec nous. Quand on est triste, la ville pleure un peu. Et puis, tout d'un coup, il y a un petit machin qui nous dit, ah tiens, ça vaut quand même la peine de continuer. C'est chouette de marcher. Et donc, il marche et puis il improvise. Et cette espèce de chose qui, pour moi, est importante dans ce disque aussi, c'est que ça donne un peu des lettres de noblesse à l'improvisation. Parce que souvent, moi, on m'a dit souvent, ah, Ramuncho, il improvise. Comme si c'était une chose vraiment mineure d'improviser.
Bon, comment on peut vous dire ça?
Encore aujourd'hui, mais les petits dessins, essayez de me dessiner une pomme, une vraie pomme. Allez, Ramuncho, fais voir, une vraie pomme. Eh ben non, ma pomme, elle sera toujours tordue.
Mais enfin, vous êtes quand même, ce disque qui sort en 1985, la musique improvisée, elle avait plus exactement besoin de lettres de noblesse.
Mais encore aujourd'hui, chère madame, c'est très étonnant. C'est très curieux quand même. Mais par exemple, aujourd'hui, ce qu'on appelle musique improvisée, il faut que ce soit que improvisé. Si on rajoute une chanson, ah ben c'est plus de la musique improvisée. Alors que si on improvise, une chanson peut jaillir aussi. Ou pas, vous avez des chansons qui jaillissent de vous ?
Moi, c'est assez rare, franchement. Non, quoique, non, en fait, je dis ça, mais...
Est-ce que vous en écrivez ?
Non.
Ça vous est jamais arrivé ?
Si.
Ah.
Je ne sais pas si j'ai tellement envie que ça prenne ça comme virage, parce que sinon je vais être obligée de vous demander si vous êtes curé.
Ben, je suis peut-être aussi curé un peu, peut-être qu'on est tous un peu curé, non ?
C'est pas, franchement, alors là, vraiment, je serais bien mal de répondre à cette question-là.
Moi, je pense qu'on est tous multiples, et si on accepte cette multiplicité, eh bien, on dit, ah, enfin, je peux être ça et ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être ça ou ça ? Alors qu'on peut être une multitude. On peut être homme et femme. On peut être enfant et vieillard, tout ça dans la même journée. C'est plus compliqué quand c'est dans la même minute.
Mais ça arrive aussi.
Et ça arrive. Parfois, on se retrouve un peu coincé.
Cet album dont on vient d'entendre un extrait, Homeboy Sister Out, I Walk, cet extrait il s'appelle comme ça, vous l'enregistrez donc à Paris en 1985
Un peu avant.
Un petit peu avant, ouais. Il sort en 1985. Ouais. Et plusieurs personnes... dont les voix concordaient, considéraient qu'il fallait qu'il ressorte, qu'il soit réédité. Pourquoi ?
Ouh, il y a encore un pourquoi, là.
Ça traîne, hein ? J'ai du mal à les ôter.
Mais non, il ne faut pas les ôter, parce que c'est bien les pourquoi. C'est le début du doute, et moi, le doute, j'adore ça, parce que le doute, c'est de où tu te mets, en fait. De quel point de vue tu te mets. Ce disque, il a été enregistré comme un petit miracle, ça a été très compliqué. Et en fait, il a fallu laisser vraiment les énergies se faire pour qu'ils puissent exister. Parce que pouvoir avoir Don Cherry en même temps que Yannick Top, au même endroit, dans un studio, avec un budget qui le permettait, c'était 5 jours de studio, mixage compris.
Caroline.
Le studio Caroline, qui était, maintenant c'est devenu une espèce de mythe, mais c'était vraiment comme une mythe. C'était un endroit où personne ne voulait aller parce que c'était dans un quartier pourri. Je ne peux pas citer le nom, sinon ceux qui habitent là pourraient penser que c'est pourri encore aujourd'hui. Mais en gros, c'était vraiment beaucoup de contraintes. Et je pense peut-être que ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est un disque très libre et sans machine. Et en fait, pourtant, la boîte à rythme existait déjà à l'époque. Et Don Cherry avait dit, non, il ne faut pas qu'il y ait des machines. Donc le percussionniste, à un moment donné, joue à la main des percussions parce qu'il pensait que la machine allait finalement... machiner la musique, et que la musique, pour qu'elle fonctionne, il fallait pas que ce soit droit. Il fallait que ce soit pas en place, que le rythme bouge un peu. Et en fait, il a, comme Brian Gysin, qui disait que la machine allait nous débarrasser du dernier animal, l'homme, il pensait que tout ce qui était technologique était fait pour créer des systèmes de contrôle complexes, et que l'essence de la musique, elle est dans l'improvisation, comme l'essence de la vie, elle est dans l'improvisation. Si on croit que dès la naissance, on va faire un métier et qu'après, on va rencontrer une personne et puis la vie sera parfaite, eh ben on ne sera pas dans la vie, on sera dans un leurre. Et je crois que, comme Gysin, il a pressenti ce qui s'est passé aujourd'hui avec les écrans. Ce qui fait du bien peut-être avec ce disque, c'est que tout d'un coup, ça respire. Ça respire l'erreur. Et l'erreur, ce n'est pas une faute. L'erreur, c'est une façon de parcourir la vie. Oui, on se trompe parfois. Oui, je me suis trompé. Je m'excuse, ou pas d'ailleurs, j'avais envie de me tromper. Et j'ai l'impression que c'est un peu un disque manifeste qui dit aussi qu'une seule personne peut être un peu reggae, un peu jazz, un peu funk, un peu triste, un peu gay, un peu instrumental, un peu trop mental, un peu trop physique. Et que ce disque représente bien cette idée qu'il y aurait un monde fait de milliards de mondes différents.
Et vous en gardez un souvenir précis de ces jours au studio Caroline ?
Alors je me rappelle de chacune de ces secondes, des odeurs. C'était très 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 curieux parce qu'il fallait vraiment appeler tous les dieux. Mais vraiment tous, oui, parce que pour réussir à faire ce disque, Don Cherry avait quand même une habitude de drogue à l'époque un peu complexe. Et heureusement, j'avais un copain qui faisait du scooter. Et donc il se promenait avec lui en scooter, et il savait comment fonctionnait la drogue, en particulier l'héroïne. Donc il fallait que le moment soit bon, donc il trouvait une cabine téléphonique, il m'appelait au studio en disant « dans un quart d'heure on est là ». Donc il fallait que les musiciens soient tous là au même moment, qu'on soit prêts à jouer. Et en gros, il y avait des petites fenêtres où la grâce allait être avec nous.
C'est marrant parce que tout à l'heure vous disiez finalement est-ce que c'est si nécessaire ? Est-ce que pour atteindre la grâce et ces fameuses parties de soi-même qu'on ne connaît pas, il faut en passer par l'usage de stupéfiants et de drogues ? En l'occurrence, pour ce disque-là, alors ce serait passé comme ça ?
Pour lui, chaque cas est particulier. Pourquoi les gens se droguent ? C'est un peu une confusion curieuse, ça. C'est comme les gens disent, à cause du chômage, le monde va mal. Non, le monde va mal, ça produit du chômage. La drogue, certaines personnes en font bon usage. Lui, comme la plupart des Afro-Américains, il est tombé de cette génération-là, il a commencé à prendre de l'héroïne à 13 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on prenait de l'héroïne, on a moins besoin de manger. C'était une réalité. Et lui, savait, il était habitué à ça. Je pense qu'il aurait pu être encore vivant aujourd'hui, s'il n'avait pas pris de drogue, par exemple. Moi, je ne crois pas à l'usage positif des drogues. Je crois que les états altérés sont intéressants, mais pas pour tout le monde. Et votre question sous-entend qu'il faudrait avoir pris de la drogue pour avoir produit cette musique ?
Pas du tout. Ma question renvoyait à ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que vous n'étiez pas vraiment sûr de l'intérêt de la prise de drogue ou de stupéfiants, même d'alcool, pour atteindre ce que vous appeliez de vos voeux dans la créativité, cette partie inconnue, encore inconnue de soi-même. Et là, je souligne juste qu'il fallait attendre ce moment en scooter, du bon quart d'heure, de l'effet de l'héroïne sur Cherry pour avoir cette musique-là. Voilà, c'était juste une petite contradiction.
Oui, mais vous avez sans doute raison. Moi, je suis une contradiction. Je pense qu'on est tous un peu une contradiction. Mais la question, peut-être, c'est est-ce que l'état qu'on attendait, c'était l'état où il était drogué ?
Il pouvait être atteint à un autre moment.
Non, mais est-ce qu'il était drogué à ce moment-là où il jouait, ou est-ce que justement il était clair ? Parce qu'au moment où il était vraiment drogué, moi j'ai les enregistrements encore, en particulier je me souviens d'un truc où j'entendais un bruit bizarre dans la batterie, donc on a monté le micro, et c'était Don Cherry en train de ronfler dans la batterie. Donc c'était le moment où la drogue était trop puissante. Peut-être que le moment de la drogue intéressant, c'est le moment où on est normal. Il faudrait se poser la question aux gens qui sont vraiment drogués. Quand ils sont en manque, ils sont pas bien. Quand ils sont trop drogués, ils sont écroulés. Et le moment où ils sont bien, c'est finalement le moment où ils sont normaux.
S'adresse aussi un certain Paris, parce que vous disiez tout ça, ça se fait dans un paysage. Bon, il y avait l'héroïne à Paris dans la fin des années 80, début des années 90, milieu des années 90. Mais il y avait quoi d'autre ? Par exemple, on se dit, c'était aussi l'avènement des radios libres, c'était aussi Radio Nova, c'était aussi certains clubs à Paris. Ça fait partie du paysage dans lequel vous avez créé, vécu, aimé, marché ?
Danser. Absolument danser. Jubilé, parce que c'était très jubilatoire. Et il ne faut pas oublier que ces lieux dont vous parlez, c'était pas des lieux d'abrutissement comme on pourrait les connaître aujourd'hui. C'était des lieux de rencontre après avoir touché la grâce. Si on se retrouvait au privilège, par exemple, qui était le sous-sol du palace, c'était le privilège d'avoir passé une bonne journée, d'avoir fait un tableau, d'avoir fait de la musique, et puis on se retrouvait entre amis, avant tout pour fêter et célébrer la vie. Aujourd'hui, où tout le monde est isolé derrière un écran, où J.H. et Jean n'ont jamais été aussi seuls que depuis qu'il existe des réseaux sociaux, on se retrouve où ?
Je ne sais pas, tout à l'heure, vous disiez que ça avait lieu, y compris aujourd'hui, à Paris, partout, tout le temps. Donc moi, j'en étais extrêmement rassurée.
Mais moi, j'en suis rassurée aussi, parce que ça m'arrive. Mais si je vois le commun de nos concitoyens, je n'ai pas l'impression que ça respire l'humour, la légèreté et la motivation.
Donc vous n'êtes pas le commun ?
Je pense que je suis un certain commun, mais pas tout à fait commun, peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
J'ai pas d'avis sur la question, on ne se connaît pas.
Ouais, mais moi je me pose la question, ça m'arrive encore, il y a encore des moments, j'ai créé un lieu. Je vous ai parlé de ce lieu ?
La lisière.
Ouais, lisière, avec un S à la fin, donc il y a plusieurs lisières. Et c'était justement pour mon envie de faire quelque chose, et qu'il y ait des lieux où il se passe des choses.
Et il s'y passe quoi alors, à lisière ?
Des rencontres. C'est un endroit où les gens peuvent aller et on met en place des choses. On travaille avec des écoles, avec des détenus, avec des institutions psychiatriques. Des artistes peuvent venir pour faire une pause ou pour se rencontrer ou pour s'inspirer. Je crois qu'il y a plein d'initiatives qui se passent, mais elles sont peut-être un peu à la marge, à la lisière. Ce disque était complètement à la marge. Mon frère, j'ai vu dans la chose qui était sur Internet, qui présentait la radio...
Le site de France Culture.
Ouais, que c'était mon oncle, alors que c'était mon frère. Vous êtes allé voir l'expo ?
Au jus de pomme, vous voulez dire,
ouais.
À Paris ? Pas encore.
Au jus de pomme. Et lui aussi, il était à la marge.
Bah, vous dites son nom alors.
Gordon Matta Clark. Et c'est chouette de voir qu'il existe encore aujourd'hui et que ça veut dire que c'est possible. Parce que j'ai le sentiment, je parle avec pas mal de gens, que beaucoup d'entre nous-mêmes, se résignent et pensent que le monde tel qu'il est, eh ben, on va pas y échapper. Il va devenir de plus en plus étroit, et puis il y a des choses terribles qui arrivent, etc. Mais il y a aussi des possibles. Et on peut vraiment produire l'impossible. Et ce disque fait partie de l'impossible. Et cette petite chose que vous avez entre les mains,
le livre,
grâce à l'initiative de Jean-Marc Vincent à Montluçon, pour moi c'est un miracle. Ça montre qu'aujourd'hui encore, il peut se passer des choses. Pas parce que c'est moi qui ai fait, mais tout simplement parce qu'il existe encore des espaces où on peut être à la marge, à la lisière, et être dans des espaces qu'il nous faut encore inventer.
On est seconde. On devient possible, on devient fossile, on devient corps, on devient jeune, on devient vieux, on devient pieux. On est seconde.
Vous avez entendu retentir les premières notes de cette chanson, qui est une de vos chansons.
Oui.
Ram Chomata, vous avez dit « Ah bon, maintenant on va parler de Deleuze ».
Ben oui.
Pourquoi ?
Parce que cette idée de ce qu'on devient, on n'est pas ce qu'on est, on est ce qu'on devient. Et c'est une idée deleuzienne. Il y a quelques livres de chevet qu'il est utile d'avoir à portée de main.
Pour tout le monde ou pour vous ? Pour vous, on va parler.
Pour tous les Ramuncho. Et l'un de ces livres, c'est « Mille plateaux ». Parce que ça fait partie de ces livres qu'il ne faut pas lire dans la linéarité. C'est de la poésie, c'est de l'improvisation, c'est du n'importe quoi. Et dans n'importe quoi, on pioche quelque chose qui va nous faire du bien. Alors, je reprends...
C'est le vôtre, vous avez bien le droit.
Les chants du chant, non, c'est le vôtre, je voulais apporter pour vous.
Ah bon, merci.
Maintenant, je vous l'emprunte. Donc, les chants du chant, je trouvais que c'était assez drôle comme titre, quand même. Mais bon, ça fait rire que moi, c'est pas grave. Il y a un moment donné, ici... Il y a quelqu'un d'important. Et j'en parle là-dedans. J'ai un frère. Et j'ai eu la chance d'avoir un frère qui n'est pas Gordon, qui était donc un autre frère, qui était son frère jumeau. Il se suicide. Et donc j'étais troublé, parce que c'est troublant d'avoir un frère. Il était schizophrène. Mais moi, ce que j'avais compris, c'est qu'on me disait « il est schizophrène ». Moi, j'avais dit « bon, ça veut dire sensible peut-être ». Parce que dès que j'avais un moment... où j'étais un peu fragile, il me tenait le bras, ou il me donnait la main, où il était extrêmement bienveillant. Donc j'ai toujours cru que les schizophrènes étaient des gens bienveillants. Et puis, à un moment donné, il se suicide, et mon père savait pas trop quoi faire de moi, et il m'envoie chaque copain à lui, psy.
Félix.
Félix. Et Félix me dit, qu'est-ce que tu fais cet été? Mais je dis, je sais pas, de la mob. Et il me dit, non, viens dans ma clinique, tu feras l'infirmier. Et là, il y a Bougie. Bougie, c'était une...
Donc on va redire, hein, Félix Guattari et Félix Guattari et vient à ma clinique, c'est vient à la Borde.
Vient à la Borde, voilà. Mais moi j'étais tout petit. Et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse à la Borde? Il fallait que je fasse des ateliers. Parce que j'étais appelé comme étant un moniteur. Mais j'étais tout petit. Et je faisais des ateliers de la voix. Parce que j'aime bien faire des choses avec ma voix. Je peux faire... Et avec les fous... Ils aiment bien pouvoir utiliser toutes sortes de voix, parce que leur personnalité, comme ça, arrive à devenir des choses assez étranges. Et surtout, il y avait Bougie. Et Bougie, c'était une infirmière qui était capable de se mettre sur le diapason de tout le monde. Et je pense que s'il y avait un livre à faire aujourd'hui sur Guattari et Deleuze, il faudrait qu'il célèbre Bougie. Parce que je pense qu'on ne célèbre pas assez ce qui lie, les personnes qui sont entre les personnes. Par exemple, Gaisin, il était...
Brian, le premier dont on a parlé aujourd'hui.
Brian Gaisin, oui. Enfin, peut-être que je dis n'importe quoi.
Il était quoi?
Ben, il était in between, il était à la marge lui aussi, il n'était pas franchement, il n'était pas écrivain, il n'était pas sculpteur, bien qu'il ait inventé la première œuvre d'art à regarder les yeux fermés. C'est pas rien, c'était une œuvre d'art où vous fermiez les yeux, ça s'appelait la Dream Machine, et à l'instant où vous fermez les yeux devant la machine, vous voyez les rêves apparaître. C'est quand même top.
Est-ce qu'on regarde une dernière image avant de se quitter?
Ah ben c'est vous la maître de cérémonie.
Alors. Bah ça j'aimais bien parce que ça nous faisait revenir à l'archive de Brian Gaisin qui disait que les notes avaient des couleurs, que les mots avaient des couleurs, qu'ils avaient des matières. Mais bon, on a déjà parlé.
On peut en reparler parce qu'on en parlera d'une autre façon, parce qu'on ne parle jamais deux fois de la même chose.
Oui, c'est sûr.
C'est comme lorsqu'on se promène avec quelqu'un, on ne fait jamais la même promenade.
Avec on aime bien les abeilles aussi.
Ah, tu sais, je suis ton trésor, j'aimerais que tu t'abeilles, qu'on aille butiner ton pied, tes oreilles, jusqu'à ce qu'on s'endorme et puis qu'on se réveille.
C'est une chanson d'amour.
Oui, j'aime bien les chansons d'amour.
Pourquoi?
Parce que j'adore cette idée qu'il existe cette chose qui s'appelle l'amour. Et j'ai été, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre là-dessus sur l'origine de l'amour. Et en fait, avant, ça s'appelait la sincère amitié. Et j'aime beaucoup cette idée de la sincère amitié. J'ai l'impression que c'est vraiment la plus grande force de l'univers. J'y crois encore.
Tes cheveux dans ma main, tu me scrambles, je te...
Scrabble. Il y en a des images hein, dans ce livre. Mm. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout d'un coup, à la radio, les images, ça devient du silence. Ce qui est quand même ce qui est merveilleux. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, j'espère qu'ils écoutent les yeux fermés. Parce qu'ils peuvent se dire, tiens, mais quelles images on regarde? Quelqu'un qui aimerait jouer de l'accordéon, quelqu'un qui ne sait pas jouer des chansons des Beatles, avertir les yeux de quelqu'un, une déchirure.
Ah, ça, voilà, c'est ça. Moi, je crois que c'est celle-là. C'est celle-là, la dernière image. C'est rien que ça, et rien de moins, rien de plus non plus, rien, juste rien, et les bien moins que rien, car presque rien, peut-être plus que tout.
Ah ben voilà, je pense que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est-à-dire ce presque rien qui est plus que tout. C'est-à-dire la chose qui est de plus précieuse qu'on a tous en commun, c'est le présent qu'on peut passer ensemble.
Merci beaucoup, Ramon Chomata.
Merci à vous.
Les Chants du Chant, c'est donc aux éditions Écriture, parce que la galerie s'appelle comme ça et qu'elle est à Montluçon et qu'on peut voir votre travail.
Oui, absolument.
Jusqu'au 15 septembre prochain. On peut aussi acheter la réédition du disque Homeboy Sister Out de Don Cherry.
Oui, ça peut se faire.
On peut aller au Jeu de Paume, voir le travail de votre frère,
ouais.
Et acheter plein d'autres livres, comme L'usage du temps.
Et on peut écouter France Culture.
Voilà. Au son ce soir, c'était Élise Le à la réalisation, Lise-Marie Barré, Jeanne Léos, Corinne Amard, Romain de Bec-de-Lièvre m'aident à penser cette émission que vous pouvez réécouter quand vous voulez, autant que vous voulez, sur franceculture.fr et en vous abonnant au podcast de Par les temps qui courent. À demain.